diverses dégustations, le résultat d'une première, des dégustations orthonasales, par olfaction directe, en verre noir, de différents vins blancs et de différents vins rouges, avec deux questions simples que nous posions à notre panel. Percevez-vous un caractère fruité de type fruit rouge et fruit noir? Et quelle est l'intensité du caractère fruité, le cas échéant, que vous avez pu percevoir? Parce que c'est quelque part relativement rassurant. Plus de 85% du panel décèle bien, sans cette subjectivité potentielle liée à la présentation visuelle des vins, des notes de fruits rouges et de fruits noirs dans les vins rouges. Une vingtaine de pourcents du panel va détecter ces mêmes notes dans les vins blancs. Et si on se penche sur l'intensité moyenne de ces caractères organoliques, de ces caractères aromatiques spécifiques, ils sont bien évidemment bien supérieurs dans les vins rouges que dans les vins blancs. Dans un second temps, nous avons envisagé de mettre en évidence une véritable spécificité aromatique des vins rouges de Bordeaux. C'est une technique qui passe par la tentative de détermination d'un espace sensoriel. Yves Le Fur vous en a parlé ce matin, mais je vais peut-être aller finalement un petit peu plus rapidement à l'essentiel en termes de résultats, la méthodologie employée étant bien évidemment la même que la sienne, puisque cette approche provient effectivement de son laboratoire. Nous avons soumis à un panel de dégustateurs experts, donc connaissant effectivement bien les produits dont nous essayons de déterminer un espace sensoriel, différents vins, le tout effectivement en verre noir, et nous avons toujours travaillé par olfaction directe, par voie orthonasale directe. Parmi ces vins, 21, 4 vins blancs, 17 vins rouges, 9 issus de Bordeaux, 8 d'origine géographique diverse, et nous avons demandé d'évaluer sur une échelle de notation allant de 1 à 10, si ces vins constituaient de très bons ou de mauvais exemples de vins de Bordeaux. Au vu des notes moyennes de typicité que nous avons pu obtenir, nous avons constaté que le panel reconnaissait aisément les vins blancs des vins rouges, et au niveau des vins rouges, la typicité moyenne des vins de Bordeaux étant statistiquement, bien évidemment, supérieure à celle des vins présentant d'autres origines géographiques. Ainsi, nous avons pu montrer qu'il existait bien une typicité aromatique propre aux vins rouges de Bordeaux. Dans un second temps, nous avons essayé de caractériser un petit peu mieux cette typicité et nous avons demandé à notre panel, dans les mêmes conditions, d'évaluer quatre caractères, des caractères de fruits rouges, de fruits noirs, de fruits frais et de fruits confiturés. Ces descripteurs devront être évalués sur une échelle de notation allant de 0 à 5. Voici le résultat après analyse statistique de cette dégustation. Il s'agit en l'occurrence d'une analyse en composante principale qui a été effectuée sur les notes moyennes de typicité et des différents descripteurs que je viens d'évoquer. Et on observe que notre panel arrive à bien discriminer les vins blancs des autres vins en le liant plutôt à des caractères de fruits frais, alors que les vins rouges sont plutôt reliés à des caractères de fruits noirs et de fruits confiturés, en particulier en ce qui concerne le groupe constitué par les vins de Bordeaux. Après avoir mis en évidence cette réalité sensorielle d'arômes fruités de type fruits rouges et fruits noirs, nous avons bien évidemment voulu nous pencher sur les molécules responsables de ces arômes. Pour cela, nous avons dans un premier temps isolé les composés que nous suspections être à l'origine de ces arômes spécifiques et des techniques de chimie analytique tout à fait classiques ont été mises en œuvre, en débutant par une extraction liquide des vins rouges par un solvant organique, pour continuer par une analyse en chromatographie en phase gazeuse couplée à l'olfactométrie des extraits bruts que nous avons pu obtenir. Comme souvent, nous avons obtenu un très grand nombre de zones odorantes fruitées, et en l'occurrence, ce grand nombre de zones odorantes s'est traduit par un relatif manque de clarté et de précision dans nos analyses, ce qui nous a demandé d'isoler ou de purifier partiellement le caractère fruité que nous pouvions trouver dans les extraits de vin rouge. Pour cela, nous avons mis en œuvre et développé une technique de fractionnement par chromatographie liquide haute performance de l'extrait organique de vin sur une colonne de type C18, donc en phase inverse. La méthode est relativement simple et vous allez voir présente pas mal d'intérêt. Pour aller à l'essentiel, nous partons d'un extrait organique dans du dichlorométhane pour finir avec l'arôme du vin, finalement décomposé dans 25 fractions qui sont en solution hydroalcoolique. Ainsi, ces solutions hydroalcooliques contenant l'arôme peuvent être senties directement et on peut les sélectionner en fonction des arômes spécifiques qu'elle recèle, en l'occurrence des arômes de fruits rouges et fruits noirs pour nous. Et puis on peut aussi les ajouter très directement à une matrice simple, aromatiquement neutre, pour déterminer au niveau de la fraction elle-même l'impact et leur intérêt potentiel sur l'arôme du vin. Enfin, ces fractions constituent bien évidemment des milieux relativement simplifiés et donc contribuent, j'aurais tendance, à faciliter nos analyses chimiques. Je vous montre ici le résultat de deux fractionnements de vin rouge, un vin de Merlot et un vin de Cabernet Sauvignon. Ce vin de Merlot, qui présente des notes de caramel et de cerise, va nous donner des fractions 5 et 7 qui présentent des notes de caramel et des fractions 20 à 22 où on va retrouver ces notes de cerise et de fruits noirs. Et de la même manière, le vin de Cabernet Sauvignon, marqué par des notes de cassis et d'épices, va présenter ces notes de cassis et fruits noirs dans les fractions 18 et 21 et d'épices dans les fractions 22 et également 19. Nous avons montré effectivement qu'on avait une bonne conservation des caractéristiques organoleptiques et aromatiques des vins au cours de ce fractionnement. Nous sommes dans un temps suivant passé à la caractérisation des composés aromatiques responsables des arômes fruités spécifiques des vins rouges. Pour cela, nous avons développé une technique passant par la mise en œuvre de ce que je viens de vous montrer jusque-là, jusqu'au fractionnement, et nous avons sélectionné les fractions aromatiques présentant de manière récurrente ces notes de fruits rouges et de fruits noirs, et il s'avère que sur des vins de Merlot et de Cabernet Sauvignon, elles sont constituées des fractions 17 à 21. Nous avons ensuite repris ces fractions 17 à 21 pour les analyser en chromatographie en phase gazeuse couplée à l'olfactométrie dans différentes conditions chromatographiques. En fonction de la polarité et des conditions chromatographiques, disons, nous avons obtenu bon nombre de zones courantes, une quarantaine ou une cinquantaine, présentant les notes nous intéressant. À partir de là, des choses assez importantes sont effectivement apparues. Tout d'abord, ces 40 ou 50 zones sont le résultat de bon nombre, des analyses de bon nombre de vins et il faut savoir qu'une grande majorité de ces zones odorantes est aléatoire en fonction des vins. Un nombre plus petit, de l'ordre d'une bonne vingtaine en l'occurrence, correspond à un socle de zones odorantes commun à l'ensemble des vins rouges que nous avons analysés, les autres zones odorantes se trouvant dans certains vins étant absentes d'autres, avec une grande variabilité. Et enfin, concernant à la fois les caractéristiques organoleptiques des vins, des fractions, en ce qui concerne leur caractère fruit rouge et fruit noir, bien évidemment, et les zones odorantes que nous avons pu obtenir, nous avons éprouvé de grandes difficultés à trouver une concordance entre les caractéristiques aromatiques spécifiques des vins et les caractéristiques aromatiques des zones odorantes, d'une zone odorante ou d'un petit nombre de zones odorantes. Concernant les caractérisations de l'arôme des vins, on était jusqu'à présent sur un modèle général qui disait qu'effectivement, un ou un petit nombre de composés clés pouvaient jouer un rôle fondamental et justifier les caractéristiques principales des vins. Force est de constater qu'en ce qui concerne les vins rouges que nous avons étudiés, nous sommes a priori, je vais vous expliquer pourquoi, en dehors finalement de ce type de modèle. Une relative originalité. Ensuite, évidemment, outil analytique aidant, on ne peut pas se passer d'essayer d'identifier les composés à l'origine de ces zones odorantes. Nous avons pu identifier une vingtaine de ces composés qui s'avèrent être des esters éthyliques et des acétates et qui sont, pour une immense majorité, communs soit au vin blanc et au vin rouge, soit au vin rosé et au vin rouge, et qui s'avèrent d'une manière générale comme étant issus du métabolisme des levures pendant la fermentation alcoolique. Nous avons mis en évidence de rares, deux, trois peut-être, composés qui semblaient spécifiques au niveau des vins rouges, mais dont les comportements, nous allons le voir assez rapidement, les comportements aromatiques ne sont pas nécessairement différents des précédents. Une fois ces composés caractérisés, nous avons bien évidemment tenté de déterminer leur impact organoleptique en quantifiant ces composés dans les vins et déterminant leur seuil de perception. Seuil de perception qui, au demeurant, sont particulièrement difficiles à déterminer avec précision, puisque, vous l'aurez compris, ces composés se trouvant systématiquement dans tous les vins, il est difficile d'avoir un modèle, un vin ne présentant pas ce composé, pour y déterminer avec précision son seuil de perception. Nous avons donc développé une méthodologie où nous avons mis en œuvre des techniques de désaromatisation des vins rouges qui ont constitué nos vins de base pour les déterminations de seuil de perception. Ce tableau est touffu, c'est volontaire, et bien évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous pouvez le vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas, mais parmi ces composés, aucun n'est présent à une teneur supérieure et égale à son seuil de perception. Et ainsi, il n'y a pas d'impact direct sur la ronde des vins des composés que nous avons pu quantifier. Néanmoins, bon nombre de composés présentent des structures chimiques proches, et plus précisément, certains d'entre eux étant même véritablement rattachés à la même famille chimique. Donc nous nous sommes interrogés pour savoir s'il y a une possibilité d'un impact indirect de ces composés sur l'expression aromatique fruitée des vins rouges. Je vous présente ici le résultat des analyses de quelques vins simplement. Parmi l'ensemble des vins que nous avons pu analyser, nous en avons retenu quelques-uns pour des caractéristiques organoleptiques véritablement très particulières. Ici, les Merlot 1 ainsi que les Cabernet Sauvignon 1 et 4 pour des notes de fruits noirs et de fruits confiturés. Et là, le Merlot 2 et le Cabernet Sauvignon 2 pour des notes de fruits rouges et de fruits frais. Nous avons observé, au niveau des analyses chimiques que nous avons pu effectuer, que certains composés présentaient, en fonction des caractéristiques organoleptiques, des teneurs significativement supérieures à la moyenne. En l'occurrence, nous avons pu montrer que le 2-méthylpropanoate d'éthyl, le 2-méthylbutanoate d'éthyl et le propanoate d'éthyl étaient présents à des teneurs supérieures à la moyenne quand les vins présentaient des notes de fruits noirs et de fruits confiturés, et que le 3-hydroxybutanoate d'éthyl ainsi que les butanoates, hexanoates et octanoates d'éthyl présentaient eux aussi des notes supérieures, présentaient des quantités supérieures à la moyenne pour les vins présentant des notes de fruits rouges et de fruits frais. Nous avons essayé ainsi de reconstituer, au vu de ces résultats, des milieux contenant ces composés à des teneurs relativement importantes, en tout cas aux teneurs maximales que nous avons pu trouver jusque-là. Je vais vous présenter ici, c'est un petit peu long, mais je vais vous présenter ici simplement les résultats concernant les notes de fruits noirs et de fruits confiturés. Nous avons reconstitué une matrice contenant les composés aromatiques nous intéressants et aux teneurs moyennes trouvées dans les vins. Et nous avons réalisé plusieurs supplémentations ces composés dont je viens de vous parler, à savoir le 2-méthylpropanoate d'éthyl, le 2-méthylbutanoate d'éthyl et le propanoate d'éthyl. Tout ça pour qu'ils atteignent simplement une teneur correspondant aux teneurs maximales qu'on a pu trouver dans les vins. Nous avons réalisé des supplémentations en prenant ces composés isolément et en prenant également ces composés en mélange. Et nous avons soumis les vins supplémentés à la dégustation par comparaison aux vins témoins à un panel. Et il apparaît de ces tests de reconstitution aromatique qu'en dehors du 2-méthylbutanoate d'éthyl dans un cas particulier, les supplémentations en ces composés se traduisent par des différences organoleptiques perceptibles. L'outil évidemment utilisé était le test triangulaire. De plus, quand on demande à notre panel de choisir parmi 6 descripteurs, 3 correspondant à des fruits rouges et 3 correspondant à des fruits noirs, on se rend compte que la majorité des membres du panel choisissent des descripteurs correspondant à des fruits noirs. Enfin, des résultats analogues ont été obtenus pour les notes de fruits rouges et de fruits frais à partir des 4 composés dont je vous ai parlé précédemment. Pour conclure sur ce point, j'insisterai juste sur le fait que de faibles variations de teneur en ces 7 espèces sont capables d'affecter relativement profondément le caractère fruité des vins, et ce, même si l'ensemble des composés demeurent à des teneurs inférieures au seuil de perception, et point particulièrement important, même si les teneurs et les variations des teneurs en ces composés sont particulièrement faibles. Petit exemple assez criant, vous avez ici, là, en l'occurrence, une variation de teneur en quelques pourcents, de l'ordre de 2,5, du propanoate d'éthyl, qui se traduit par une modification de l'intensité du caractère fruit noir. Et tout ceci, nous supposons que c'est lié à des interactions perceptives particulières qui, en tout cas, à de tels niveaux de concentration, n'avaient jusqu'alors jamais été évoqués. Le concept a été repris et développé, mais c'est une des conclusions majeures de la thèse de Bénédicte Pinault que nous avons effectivement mise en évidence dans ce travail. Alors, je vous parle d'interactions perceptives particulières, où finalement, on pourrait aller vers un modèle où de petites modifications en quelques composés principaux de teneur, même si on est très loin des seuils de perception, modifient profondément les caractéristiques organoleptiques des vins. Et bien, ceci, on a voulu le développer en partant complètement des fractions aromatiques des vins, en fonction de la méthodologie de fractionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'objet principal de la thèse de Georges Alifra, qui sera soutenue fin 2012. En termes de perspective, je vous présente juste une diapositive avec quelques travaux, avec le résultat de quelques travaux préliminaires. Nous avons, dans le cadre de ce travail, tâché de reconstituer l'arôme du vin à partir des fractions de cet arôme que nous avons pu décomposer à l'aide du fractionnement par HPLC. Je focaliserai juste votre attention sur des reconstitutions partielles de cet arôme concernant les notes de fruits frais. Si l'on compare des reconstitutions aromatiques constituées par les fractions 17 à 21 qui correspondent aux notes de fruits rouges et de fruits frais et qu'on y ajoute les fractions 15 et 16 qui sont aromatiquement neutres, on observe une grande augmentation de l'intensité du caractère fruit frais. Et si à cet nouvel ensemble on rajoute les fractions 3 à 5 qui présentent, elles, quelques notes aromatiques non fruitées mais assez intéressantes, eh bien, on va gommer à nouveau ce caractère fruité, puisqu'on va revenir finalement à l'intensité du caractère fruité issu des fractions 17 à 21, qui en l'occurrence n'est pas statistiquement différent de l'intensité du caractère fruité que l'on va obtenir dans les vins. Donc visiblement, pour conclure, en plus de ces perspectives en deux mots, je dirais que ces travaux menés sur l'arôme fruité des vins rouges indiquent très vraisemblablement qu'on est dans un modèle de justification aromatique assez différent de celui de ce qu'on a pu utiliser jusqu'alors pour expliquer l'impact organoleptique de défauts, de composés du bois ou d'arômes variétaux spécifiques, et qu'on a effectivement des interactions perceptives qui présentent un intérêt tout particulier. Néanmoins, je vous l'ai dit, l'ensemble des zones odorantes que nous avons pu mettre en évidence n'ont pas jusqu'alors nécessairement été encore caractérisées, et bien évidemment, avant de conclure d'une manière trop péremptoire, il est judicieux d'essayer aussi de développer ces travaux de caractérisation de manière à finaliser le bilan complet des composés aromatiques potentiellement impliqués. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention.